Vous êtes sur RTL.
Nous, on vous embrasse tous, il est 7h.
RTL Matin, le journal de Philippe Robuchon.
Un week-end marqué donc par le centenaire de l'armistice de 1918, Donald Trump est arrivé hier soir à Paris. À peine avait-il touché le sol français qu'il s'en est pris à Emmanuel Macron pour la première fois. On vous explique pourquoi dans un instant. Emmanuel Macron qui a terminé son itinérance mémorielle dans l'Est et le Nord de la France. Il s'est fait malmener toute la semaine par les Français et pourtant l'Élysée se dit satisfait. 15h cet après-midi, une marche blanche à Marseille, 5 jours après l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 8 morts. Et puis évidemment tous les sports, du rugby ce soir, France-Afrique du Sud au Stade de France, du foot, la 13e journée de Ligue 1, et de la voile. Dans la route du Rhum, François Gabart devrait franchir la ligne d'arrivée demain, normalement, en Guadeloupe.
RTL Matin, Philippe Robuchon.
Pour commencer, du Trump tout craché. Le président américain s'est posé hier soir à Paris, à bord d'Air Force One, accompagné de son épouse Melania. Il va rencontrer Emmanuel Macron ce matin avant de participer demain à la grande journée du souvenir pour le 11 novembre. Et une fois de plus, il se fait remarquer, Trump, par un tweet qui, pour la première fois, vise le président français Emmanuel Macron. Philippe Corbet, ça promet hein, pour le week-end.
Oui, Air Force One venait à peine de se poser à Orly, il n'en était pas encore descendu, qu'il tweetait, je cite, « Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée afin de se protéger des États-Unis, de la Chine et la Russie. C'est très insultant. » Alors le président français a en fait déclaré cette semaine que l'Europe ne pourra pas se défendre sans une vraie armée européenne, sans dépendre, je cite, seulement des États-Unis et de manière plus souveraine. C'est un vieux débat qui date des années 50. Le président Trump accuse régulièrement l'Europe de profiter des États-Unis sans contribuer suffisamment aux dépenses militaires au sein de l'OTAN. Généralement, il vise l'Allemagne, mais cette fois-ci, il s'en prend à la France, signe que ses relations très tactiles avec le président Macron se sont dégradées. Est-ce pour autant une déclaration de guerre diplomatique ou bien seulement un énième exemple de ses réflexes d'intimidation, parfois brutal? On le constate souvent ici avec ses adversaires. En juillet, à Londres, il avait aussi insulté Theresa May quelques heures avant une rencontre officielle. Depuis les élections, il semble déchaîné. Il a passé une bonne partie du vol pour Paris à regarder Fox News en tweetant des messages rageurs.
Philippe Corbet, correspondant permanent de RTL aux États-Unis. Cet après-midi, Emmanuel Macron est attendu dans la célèbre clairière de Rotonde, près de Compiègne. C'est là que fut signé l'armistice de 1918. Il sera aux côtés d'Angela Merkel. Et puis ce soir, dans un Paris ultra surveillé, un grand dîner de chefs d'État et de gouvernement est prévu au musée d'Orsay. Demain, 11 novembre, ne manquez pas l'édition spéciale centenaire que RTL vous proposera entre 9h15 et 13h. Les cérémonies à l'Arc de Triomphe, notamment. L'émission sera animée par Vincent Parisot, Benjamin Sportouche, avec autour d'eux de nombreux invités. Avant de retrouver Trump, ce matin, Emmanuel Macron est rentré à Paris hier soir après 6 jours de visite mémorielle dans l'Est et le Nord de la France. Hier encore, il est allé au contact de la population, notamment dans un bar de Bully-les-Mines, près de Lens. Une semaine au cours de laquelle les Français lui auront dit tout ce qu'ils ont sur le cœur, le prix des carburants, le coût de la vie. Le chef d'État a parfois semblé en difficulté et pourtant, Olivier Bost, eh bien, l'Élysée tire un bilan positif de cette séquence.
Oui, cette grande tournée a ressemblé à un sondage grandeur nature. Emmanuel Macron a pu mesurer sur le terrain ce que lui racontent le reste du temps les enquêtes d'opinion. La hausse des carburants, la CSG, le rejet de sa personne, rien n'aura été épargné au chef de l'État. Mais pour ses conseillers, c'est tout sauf une surprise. C'est même ce qui était recherché. On a, explique l'un d'eux, brisé la vitre qui traditionnellement sépare le président et les gens. C'est une rupture totale, va même jusqu'à confier l'un de ses proches. Au contact direct des Français et de leur colère, Emmanuel Macron retrouve ses réflexes de candidat avec clairement en ligne de mire les élections européennes. Mais cette formule n'a pas convaincu tout le monde. Pour un responsable de la majorité, la semaine est complètement ratée. On retiendra le fait qu'il s'est fait engueuler du matin au soir par les Français. Mais autour du président, à l'Élysée, on envisage déjà de recommencer.
Olivier Bost du service politique de RTL. L'Assemblée nationale a adopté hier soir un dispositif pour la rénovation de l'habitat ancien. Il est inspiré de la loi Pinel. Il doit permettre notamment de relancer la rénovation dans les centres-villes où l'habitat s'est dégradé. Il est 7h05, on marque une première pause dans ce RTL Matin Week-end. Dans un instant, la marche blanche à Marseille, cet après-midi.
RTL Matin, 7h06, la suite du journal Philippe Robuchon.
Alors qu'un 8e corps a été retiré hier des décombres de l'immeuble qui s'est effondré lundi à Marseille, un moment d'émotion et sans doute de colère cet après-midi. À 15h, une marche blanche est organisée entre le quartier Noailles, où a eu lieu le drame, et le Vieux-Port. Étienne Baudu, les autorités ne devraient pas être épargnées.
Gaudin démission, c'est le slogan scandé par des manifestants en direction du maire qui assistait à une conférence de presse hier en préfecture. Alors entendra-t-on à nouveau ce slogan cet après-midi au cours de la marche blanche? Une marche évidemment avant tout destinée à rendre hommage aux victimes. Fatima est toujours sous le choc, elle a vu les immeubles s'effondrer.
J'arrive pas à oublier cette image. Bon, grâce à Dieu que je suis vivante, mais quand même, cette image-là, je n'ai jamais oublié ça, monsieur.
On n'oubliera jamais ça.
Jamais.
Mais c'est vrai aussi qu'on sent dans le quartier une colère sourde qui monte, une colère rentrée. Pour l'instant, explique Jean-Philippe.
Cette situation, elle n'est pas nouvelle, mais c'est l'accumulation de tant d'injustices depuis tant d'années qui font qu'à un moment donné, le couvercle de la marmite qu'on essaye de maintenir, bah voilà, ça boude et ça explose.
La marche blanche partira du quartier Noailles en direction du Vieux-Port. Une marche à laquelle doit participer le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, député de cette circonscription.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. À l'étranger, les incendies en Californie ont fait au moins 9 morts. La célèbre station balnéaire de Malibu fait partie des villes menacées. Les sports ce week-end, c'est d'abord le retour du 15 de France. Ce soir, 21h, les joueurs de Jacques Brunel entament leur tournée d'automne. Un premier match particulièrement difficile face à l'Afrique du Sud au Stade de France. L'objectif, c'est tout simplement de retrouver de la confiance. Les Bleus ont perdu 6 de leurs 8 derniers matchs. En football, 13e journée de Ligue 1, l'a débuté hier soir. Déception pour Lille, tenue en échec à domicile 0-0 par Strasbourg. Parmi les rencontres de ce samedi, Guingamp-Lyon à 17h. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, sera évidemment du déplacement en Bretagne. Ces derniers jours, il s'en est encore pris aux journalistes, responsables selon lui de la méforme actuelle de son équipe. Willy Maisonas.
En effet, fragilité mentale assez déconcertante des Lyonnais, mais Jean-Michel Aulas en a visiblement identifié la cause.
À force d'entendre des critiques permanentes qui ne sont pas toutes justifiées, je pense que les joueurs ils sont beaucoup plus sensibles que le président.
Un président de plus en plus agacé par
les analyses qui sont faites de droite et de gauche, et des fois, moi, je dis des choses qui sont injustes.
L'injustice de médias qui auraient choisi leur camp.
Je ne veux pas faire comme le Paris Saint-Germain de pleurer sur toutes les antennes. Moi, vous ne me reprendrez pas de toute façon si je pleure contre l'arbitre.
Qui manquerait de clairvoyance, même d'objectivité.
Ça ne sert à rien de dire que tout est mauvais alors que tout n'est pas mauvais.
Alors aujourd'hui, JMA en appelle à son 12e homme, les supporters, mais aussi à un étonnant 13e, les journalistes.
Si on commence à se tirer des balles dans le pied ou dire que les joueurs sont pas bons, que l'entraîneur n'y arrivera pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. On a besoin que tout le monde nous aide.
Bruno Genesio, lui, a une autre idée pour soigner les têtes lyonnaises.
Pour la confiance, c'est rien de mieux que gagner un match.
Il y a presque urgence pour cette OL dont le prochain adversaire au retour de la trêve se nomme Saint-Étienne pour un derby toujours fiévreux.
Willy Maisonas, Guingamp-Lyon, c'est cet après-midi à 17h. En voile, des nouvelles de la route du Rhum. Selon les derniers pointages, François Gabart a encore accentué son avance en tête de la course. Il avait hier soir 144 000 d'avance sur Francis Joyon. Gabart devrait franchir la ligne, si tout va bien, demain à Pointe-à-Pitre. Quant à Armel Lecléache, qui a chaviré cette semaine au large de l'Espagne, il est rentré chez lui hier soir en Bretagne. Son bateau est toujours retourné sur les eaux de l'Atlantique. On revient à l'événement majeur, on va dire, du week-end, le centenaire de l'armistice de 1918. Un sujet pas toujours facile à expliquer aux enfants. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Vous avez sélectionné des livres simples, des romans, des livres illustrés, trois indispensables pour faire comprendre aux 5-12 ans ce conflit vieux de plus d'un siècle.
Mon premier est un coup de cœur pour une histoire signée Timothée de Fombelle. Capitaine Rosalie, vous l'avez juste devant vous, c'est un petit livre. Je vais reprendre les mots de l'auteur parce qu'ils sont justes et beaux. Capitaine Rosalie, c'est l'ombre portée de la guerre dans la vie d'une petite fille, Rosalie. Elle a 5 ans et elle a un secret. Elle est en mission, elle espionne l'ennemi. Et Rosalie va découvrir cette terrible évidence. La guerre, ça tue. C'est un livre magnifiquement illustré par Isabelle Arsenault. Capitaine Rosalie, c'est édité chez Gallimard Jeunesse.
Autre livre, autre histoire, illustré cette fois-ci.
Oui, Teinte Caboche, c'est le titre. Teinte Caboche, c'est un casque, celui d'un poilu, Antoine, 24 ans. C'est là, dans l'enfer des bombes, que Teinte Caboche va trouver son nom. Ce jour où une rafale de mitraillette va le faire sonner comme une cloche. Ce livre aborde des thèmes comme la fraternisation, la vie dans les tranchées, à travers un casque qui va être assemblé à une mandoline. Et vous savez quoi ? Eh ben, elle existe, cette mandoline. Vous l'avez en photo à la fin du livre. Elle est à Meaux, en Seine-et-Marne, au musée de la Grande Guerre. Teinte Caboche, aux éditions du Seuil. L'auteur aime le rouge.
Et puisqu'on est avec les objets de la Grande Guerre, un dernier livre les recense.
Dans La guerre en mille morceaux, Alain Serre, aux éditions Rue du Monde, raconte la guerre à travers les yeux d'un poilu imaginaire et à partir de 50 objets qui sont en photo dans le bouquin et qui proviennent des tranchées de la Grande Guerre et témoignent du quotidien des soldats. Parfois insolites, tout ça pour rappeler aux enfants que rien ne vaut la paix. La guerre en mille morceaux, édition Rue du Monde.
Et sur la couverture de ce livre, La guerre en mille morceaux, un petit sticker rouge. Vive la paix.